France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
La découverte de la sexualité quand on est ado, c'est à la fois un grand mystère, une grande envie, forcément, sans doute aussi une grande trouille. Trouver la bonne personne pour une première fois, ça c'est une chose, mais les questions qui trottent dans la tête, c'est aussi est-ce que je vais savoir, est-ce que je vais être à la hauteur, qu'est-ce que je dois faire exactement, je sais pas si je dois quoi, crier, soupirer, comment je sais si l'autre, le garçon ou la fille, peu importe, prend du plaisir. Est-ce qu'il faut apprendre des positions ou pas? Ça marche comment exactement? C'est l'âge où on ne sait pas que faire l'amour est simplement quelque chose de très naturel. C'est tout un monde que les parents ont connu eux aussi, mais souvent, sans accès libre au porno d'abord, et souvent un monde qu'ils préfèrent oublier, dont ils ne veulent plus reparler aujourd'hui, parce que oui, c'est parfois compliqué. C'est pour toutes ces raisons que les jeunes sont tentés d'aller chercher le porno, mais le porno ne leur rend pas forcément bien. On sait bien que l'accès, donc, est terriblement simple aujourd'hui. Qu'est-ce que ça montre de la sexualité? Qu'est-ce que ça montre du rapport homme-femme? Jusqu'à quel point les jeunes pensent que ces images sont la réalité de la sexualité? Quand on est parent, le blocage du téléphone, ne vous fatiguez pas, ça suffit pas. À quel âge doit-on en parler à son fils ou à sa fille pour dire quoi, pour expliquer comment? Ce soir, nous sommes en partenariat avec France 2 qui diffuse une fiction, d'abord ce soir, Connexion Intime, et puis un documentaire et un débat sur le sujet. Nous, on a décidé d'essayer de faire parler les ados. C'est ce qu'on voudrait. En tout cas, certains sont là avec nous ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, on commence avec vous, Valentin. Soyez le bienvenu. Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Allez-y.
Alors, moi, en fait, j'ai 22 ans. Et depuis mon adolescence, je regarde du porno et avec le recul, je me dis que ça a influencé ma vie sexuelle parce que je me suis dit que le porno, c'était forcément ce qu'il fallait faire avec une vraie personne, une personne réelle. Alors que le porno, je sais que c'est... maintenant, je sais que ça peut être parfois violent, mais pour moi, c'est ce qu'il fallait reproduire avec quelqu'un. Et même avant que je sois au courant de ma propre sexualité, je regardais déjà du porno, et même avant que je sache ce que c'était se masturber, je regardais déjà du porno. Donc voilà, c'est pour dire que ça a un peu influencé ma vie sexuelle. Aujourd'hui, je m'en rends compte, donc je me dis bien sûr que c'est pas la réalité, mais pour des personnes plus jeunes, je sais pas s'il y a cette prise de conscience.
Et Valentin, vous avez commencé à quel âge, si je puis dire? Les premiers films porno que vous voyez, vous avez quel âge?
Je crois que c'était assez jeune. Vers 13 ans, peut-être.
Et après, je vous laisse parce qu'on entendra la discussion. À quel moment, au fond, vous avez le sentiment que c'est bon, vous avez réussi à vous en détacher et à avoir une vie sexuelle normale sans être dans la performance de ce qu'on voit, au fond, dans les films porno? À quel moment vous vous remettez sur vos pattes, en quelque sorte?
Ça arrivait un peu plus tard. Je pense que ça arrive quand on a vraiment des relations sexuelles et qu'on a commencé à avoir un peu d'expérience, je pense. C'est à ce moment-là qu'il y a un peu cette prise de conscience en se disant que c'est pas forcément la réalité.
Et Valentin, est-ce que vous avez un petit frère ou une petite sœur par hasard?
Oui, j'ai un petit frère.
Et du coup, vous lui en parlez ou pas, puisque vous y êtes et que vous savez comment ça se passe?
Non, je lui en parle pas, mais présume qu'il a peut-être déjà commencé, vu que même moi, en parlant avec des amis plus jeunes, on a tous un peu commencé à cet âge-là, notamment au collège.
Merci beaucoup Valentin pour cette entrée en matière et pour discuter avec nous jusqu'à 20h. Et autour de la table, il y a d'abord Léa. Bonsoir Léa.
Bonsoir.
Qui est en première. Léa, tu as 16 ans. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
15 ans Mathieu, en licence. Donc très très en avance, et peut-être que ça compte aussi. Puis autour de la table également, parce que il fallait bien quelques référents adultes à part moi. Didier Valentin est là, bonsoir. Les jeunes vous écoutent et vous connaissent plus sous le nom du docteur Capote. Vous êtes animateur de prévention en milieu scolaire. Vous avez écrit notamment Génération Q, avec la lettre Q, et c'est édité chez La Ville Brûle. Je voudrais commencer avec toi Mathieu, si tu veux bien. Quand tu entends Valentin, qui a 22 ans, est-ce que tu as l'impression, quand il parle, que tu sais exactement de quoi il parle, parce que vous avez commencé vaguement au même âge à regarder des films porno? Est-ce que ça te parle, ce témoignage-là?
Oui, voilà. Enfin, on a commencé à peu près au même âge, en effet, mais enfin, dès le début, j'ai eu une sorte de recul, J'ai assez vite compris que c'était pas comme ça dans la réalité, que c'était vachement exacerbé, puis que la position des femmes par exemple, elle était un peu, enfin il y avait du sexisme clairement. Enfin j'ai pris du recul, oui, assez vite, et je me suis rendu compte que c'était pas comme ça dans la vraie vie.
Mais pourquoi on y va, du coup, quand on a, donc, toi, 13 ans, pourquoi on se dit, puisqu'on sait ça, on a déjà le recul, t'es un jeune garçon très mûr, donc on sait que tout ça, effectivement, ça ne reflète pas la réalité de la sexualité, donc pourquoi on y retourne, en fait?
Bah, je sais pas, enfin, déjà, il y a un effet de... un peu de mouton, parce que tout le monde le fait, donc on se dit, bah, je vais peut-être y retourner, et puis, en vrai, ça procure du plaisir, donc... ça devient pas une habitude, mais vu que c'est un moyen de procurer du plaisir, on y retourne, voilà.
Mais une habitude, ça veut dire quoi? C'est quoi ta fréquence, toi, du film porno?
Je sais pas, peut-être un peu moins d'une fois par semaine ou des choses comme ça.
Et donc de manière plutôt récurrente, est-ce que tes parents sont au courant, par exemple?
Non, mais en vérité...
Ils vont savoir maintenant.
Non, ils sont pas au courant, mais en vérité, je pense que c'est assez naturel, il faudrait pas qu'il y ait de tabou, donc si jamais un jour on devait en parler, je leur en parlerai sans problème, mais j'ai jamais eu l'occasion.
Je voudrais poser aussi la même question à Léa, un peu plus vieille, à peine plus vieille, mais les filles en général ont une vision des choses qui évidemment est différente. Je voudrais aussi que tu réagisses au témoignage de Valentin. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu dis ouais, des garçons comme ça, un peu plus jeunes, j'en ai plein mon lycée, j'en ai vu plein, et oui, je les connais ceux-là.
Bah, je les connais parce que moi-même j'ai vu mon premier film, on va dire entre guillemets, à cause de ça. C'est qu'un garçon qui était jeune, 13 ans, à peu près le même âge, qui m'a montré, et moi ça m'a choqué, et j'en ai plus jamais regardé, enfin, après ces images-là, j'ai plus jamais regardé de porno, on va dire.
Mais est-ce qu'on en parle dans la cour de l'école? Est-ce qu'on se marre en s'échangeant les vidéos sur YouTube? On sait bien que c'est d'une facilité déconcertante.
Oui.
Donc est-ce qu'on les voit, les garçons en parler, mais peut-être les filles aussi? Qu'est-ce qu'on entend dans la cour?
Les filles moins, parce que les filles... sur ça, elles sont plus timides, on va dire, entre guillemets. Mais les garçons s'échangent leurs vidéos, s'échangent leurs liens, on va dire, Internet, etc., dans la cour.
Didier Valentin, docteur Capote, moi je trouve ça... Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. D'abord, dans le témoignage de Vincent, il y a l'idée qu'on sait bien, effectivement, que c'est potentiellement et probablement détraquant pour la sexualité, mais il faut un temps pour se remettre droit. Et on a Mathieu qui nous dit en même temps, c'est pas dramatique, il faut pas en parler avec tabou. Comment vous faites, vous, quand vous êtes en milieu scolaire et que vous discutez avec les jeunes gens?
Bah, du coup, déjà, si je dirais, j'ai plutôt certains ados, déjà,
ouais.
Parce que c'est vrai qu'on dit toujours les ados, fait, tous ne sont pas égaux, effectivement, et ne font pas, effectivement, les mêmes choses. C'est intéressant ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, il a parlé d'esprit critique, en fait,
ouais.
Et nous, notre boulot, il est là, en fait, c'est, le porno est là, de toute façon, c'est pas mon job de
mais du coup, l'idée,
faire fermer
c'est,
les
puisque vous l'avez en accès, autant que vous sachiez ce que vous êtes en train de regarder, c'est
oui,
plutôt ça,
c'est
votre
développer
discours.
Un esprit critique, il l'a dit, c'est, effectivement, s'interroger sur le fait que ce porno-là est souvent très hétéro centré déjà, très phallique, alors qu'on parlait des filles, effectivement, qui en parlaient moins, mais c'est logique, là on est dans les stéréotypes de genre, c'est-à-dire que les filles, si elles parlent un petit peu trop facilement de leur sexualité, de leur vie amoureuse, en général, elles ont un retour de manivelle assez fort, et donc du coup, elles ont appris malheureusement à se taire, et mon boulot, il est là aussi, c'est de rétablir l'égalité dans la parole et dans le débat.
Avec, tiens, j'ai ces chiffres, moi, sous les yeux, 63% des garçons et 37% des filles de 15 à 17 ans consomment des images en accès facile, ça donne... On est quasiment dans un rapport de 1 sur 2, donc c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous arrivez à leur dire, est-ce que vous avez le sentiment que ça répond aux questions qu'ils se posent sur leur sexualité? Parce que ça dit ça aussi, peut-être, le porno, c'est la trouille dont je parlais tout à l'heure.
Moi, je fais la différence quand même entre l'exposition accidentelle dont tu as parlé.
Parlez, Léa, ouais.
Un pote qui t'invite un peu fortement à regarder des images que tu n'avais pas choisies. Et puis ceux qui, effectivement, donc il y a un impact traumatique, bien évidemment. Et puis il y a une expérience volontaire qui peut être guidée par l'envie d'expérimenter, l'expérience. Moi, je rejoins un peu. Nous, on travaille aussi beaucoup sur les drogues et finalement, on est un peu dans le même univers. C'est la réduction des risques. C'est-à-dire que c'est effectivement les produits sont là. Le porno est un produit et c'est effectivement comment on peut développer donc cet esprit critique dont je parlais tout à l'heure, mais surtout faire la différence entre ceux qui vont chercher des images qui vont trouver des fois avec forcément en étant quelquefois effectivement très surpris par ce qu'ils vont voir, mais on est surpris parce que des fois moi j'ai pas de 30 ans, j'ai une bande de mecs qui me disaient ouais, ils m'ont montré carrément leur téléphone, on était à l'intérieur d'un bahut, donc je leur ai dit on y va doucement, sur XXcom, et en fait le seul truc qui les intéressait c'était une pub au milieu de toutes les vidéos sur une crème qui faisait allonger le pénis, quoi, et ils me demandaient ce que j'en pensais, donc je leur ai dit que je l'avais pas essayé, mais surtout, l'idée, c'était de déconstruire, en fait, leur représentation. C'est ça, le boulot, en fait.
Audrey, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, Audrey.
Alors moi j'ai appelé parce que je suis professeure d'histoire et donc d'éducation morale et civique. Et donc je suis confrontée à un petit peu à ça parce qu'on aborde des thèmes, notamment l'avortement, mm-hmm. L'homosexualité, des choses comme ça. Et moi ce qui me chiffonne, c'est le consentement. C'est-à-dire mm-hmm. que là, par exemple, j'ai passé cette semaine, on a travaillé sur l'avortement et j'ai passé le film sur le procès de Bobigny. Mm-hmm. Et dans ce film qui évoque quelque chose des années 70 quand même, la jeune fille dit avoir été violée, ce qui est le cas, et c'est pour ça qu'elle est enceinte. Et en fait, le juge la met dans le film, lui dit « mais vous êtes montée avec ce garçon ». Et ma classe, beaucoup d'élèves rigolent. Donc je fais un arrêt sur l'image et je leur dis « mais pourquoi vous rigolez ?». Et les filles me disent « mais madame, quand même, elle a suivi le garçon ». Et donc, je leur dis, donc, sous prétexte qu'elle est montée avec lui, elle doit coucher avec lui. Et là, je sens un malaise. Je dis, mais on est bien d'accord qu'elle a le droit de monter pour écouter un disque, parce que c'est ce qu'elle dit dans le film. Mm-hmm. Elle a le droit de l'embrasser, elle a le droit de s'arrêter. Et là, on rentre dans quelque chose que j'ai déjà perçu, c'est le différentiel entre des garçons qui, faut le dire, vont plus voir le porno que les filles, et qui ont cette impression que la première fois qu'ils vont coucher avec une fille, eh ben ils vont avoir droit à la totale, hein, faut un peu dire les choses telles qu'elles sont, et les filles je me demande s'il n'y a pas aussi le fait que le consentement est plus ou moins là et parfois pas là, mais il y a ce sentiment de se dire si on suit un garçon qui veut coucher, on couche. S'il veut une fellation, on la fait. Et puis même si on n'a pas envie de la faire. Et puis tout ça, le décalé entre la réalité et le porno, il est aussi dans ses conséquences-là, je pense, moi.
Merci beaucoup Audrey pour ce témoignage. Léa, la pression, en fait, cette pression-là, c'est-à-dire quand on a 16 ans, qu'on commence doucement à découvrir la sexualité, que il y a un petit ami et puis un autre, c'est peut-être pas celui-là et on verra bien. Est-ce que vous sentez-vous, entre vous, les copines, une espèce de pression, en fait, de la part des garçons ou pas? L'idée qu'à un moment, il va falloir dire oui, ce que racontait Audrey.
Après, tout dépend des personnes qu'on fréquente. J'ai des copines qui, sentent cette pression et disent maintenant que j'ai un copain, il faut que je passe à l'acte ou il faut que je fasse ci parce qu'il me l'a demandé, etc. Et puis, il y a d'autres personnes qui, non. C'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je vais devoir faire tout ce qu'il me demande, tout dépend.
Mathieu, là-dessus, sur le témoignage de cette prof d'histoire.
Moi, j'aimerais rebondir sur autre chose, c'est sur...
Allez-y, vas-y.
Il y a de plus en plus de vidéos, je trouve, sur les sites pornographiques qui mettent en place une sorte de viol mise en scène. Je trouve ça vraiment infâme et justement, si les ados n'ont pas le recul, ça peut vraiment... ils peuvent vraiment avoir du mal à comprendre le consentement parce que des fois c'est vraiment limite.
Ça aussi, le consentement, Didier Valentin, Docteur Capote, c'est aussi quelque chose, j'imagine, dont vous parlez beaucoup avec eux. En effet, c'est important de le rappeler, on a le droit de dire non, y compris si c'est la première fois et y compris si on a un copain. C'est pas parce qu'on a un copain qu'on va immédiatement passer à l'acte 2, en fait.
La question du consentement, elle se pose systématiquement, porno ou pas. De toute façon, on sort de MeToo quand même, je le rappelle.
On n'en sort pas, on est dedans.
On est dedans, oui. Enfin, on en sort de la vague de parole. Et puis aujourd'hui, on a envie de passer un peu plus à l'acte. Et franchement, chez les adultes, la question du consentement, elle est à revoir aussi, visiblement. Donc, quelle image, effectivement, on donne en tant qu'adulte aussi sur ces histoires de consentement? Très clairement, nous, on le travaille. Moi, je préfère parler souvent de désir et d'envie partagée. Le consentement, c'est un mot très juridique, un peu froid. Mais quand on parle d'envie et de désir partagé, on est effectivement là-dedans et on l'interroge. Et moi, je passe beaucoup de temps là-dessus, en fait. Je pense que c'est primordial. Donc du coup, c'est porno ou pas porno, cette question du consentement, elle est essentielle dans la sexualité et dans la vie amoureuse. Et bien évidemment qu'on la pose.
Je vous ai vu tiquer, mais peut-être que j'ai rêvé quand je lisais l'introduction, je disais essayer de mettre un frein sur les portables, un code, interdire l'accès, de toute façon ça sert à rien, ils sauront forcément le trouver. Est-ce que vous êtes favorable à ça? Est-ce qu'il faut dire aux parents mettez un, comment on appelle ça, une clé, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, pour éviter que votre enfant puisse regarder du porno? C'est efficace ça ou pas? Un blocage, ça y est, pardon.
Ouais, j'y crois pas trop, ils arrivent toujours à se débrouiller. Puis je crois pas beaucoup à l'interdiction, à la répression, je crois beaucoup à l'éducation. C'est c'est logique, c'est mon, mm-hmm. C'est mon taf, chacun son boulot. Ovidie, dans son film Pornocratie, montre très bien que c'est compliqué hein, d'aller fermer ces plateformes gratuites mm-hmm. qui balancent effectivement beaucoup de trash sur le net, parce qu'il y a différents pornos, hein, très clairement. Mm-hmm. Celui-là, il est quand même trash, souvent, le gratuit. Et je pense que là, on peut s'adresser effectivement plutôt aux politiques, aux États, à la justice, comment effectivement on peut attaquer ces plateformes. Les téléphones, je pense pas que les ados ont envie de tous mettre de côté leur téléphone. Internet, et on est tous devant qu'on continue. Bon, l'interdiction, la répression, j'y crois pas trop. C'est la même chose qu'avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec les produits psychoactifs, de toute façon, très clairement.
Et Léa, la discussion avec tes parents, est-ce qu'elle a eu lieu ou pas? Attention au porno, attention à ce que tu regardes. Est-ce qu'ils ont essayé de bloquer le téléphone ou l'ordinateur ou pas du tout, en fait?
Non. Ils ont pas du tout essayé de bloquer mon téléphone ou les ordinateurs, etc. Ils ont plus... parler avec nous, mais j'ai aussi des frères, des grands frères, mm-hmm. donc on a, que ce soit de sexualité ou de drogue ou tout ça, les sorties, les dangers qu'il peut y avoir dans la rue, sur ça, non, mes parents, ils m'en ont parlé, ils nous ont essayé, au contraire, de nous ouvrir et d'essayer de qu'on trouve des solutions à tout ça.
Et Mathieu, est-ce que cette discussion visiblement n'a pas encore eu lieu chez toi?
Je dirais que moi, c'est pareil, mes parents, comme ceux de Léa, m'ont parlé un peu des dangers de la vie, etc. Mais du coup, non, il n'y a jamais eu de discussion juste sur le porno.
Mais est-ce que c'est une discussion qu'on a envie d'avoir avec ses parents, en fait?
Clairement,
c'est aussi
pas.
Ça. Est-ce que c'est plus facile d'avoir la discussion avec notre ami le docteur Capote que de l'avoir avec ses parents, Mathieu?
Je pense que c'est clairement pas une discussion qu'on aimerait au premier abord, quoi.
Et c'est peut-être ça aussi la difficulté. Je voudrais qu'on écoute Véronique, qui est infirmière scolaire. Peut-être qu'elle a quelques réponses à ça. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir.
On vous écoute. Allez-y.
Ce que je peux dire, c'est que je suis d'accord avec Valentin, Léa, avec Dr Capote. En fait, c'est vrai que c'est pas un sujet facile à aborder en famille, avec les parents. Je dirais qu'il y a à peu près un adolescent sur deux qui en parle, enfin qui aborde le sujet à la maison, sexualité, vie amoureuse, pornographie. Mais ben la moitié des ados en âge d'avoir une sexualité n'en parlent pas du tout à la maison. Ça reste tabou, voilà. Nous, on reçoit beaucoup les jeunes en individuel, en entretien. Souvent des jeunes filles qui ont eu... ce dont j'ai entendu parler avant, là, les pressions qu'elles subissent parfois de leurs petits amis. Si tu m'aimes, tu le fais. Hein. Souvent, on l'entend, voilà. Une fellation, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est à la fois très bien qu'elles aient un espace pour discuter et libre et sans jugement, qu'on puisse reprendre des choses avec elles. La notion de consentement, de désir, enfin, voilà, on aborde énormément de sujets. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'infirmière à l'éducation nationale, on fait de l'éducation à la sexualité et vie amoureuse. C'est dans les programmes. Je ne sais pas si les parents sont toujours au courant. En quatrième, en troisième et en seconde, donc on aborde tous ces sujets. Voilà, on parle de la pornographie. Ils ont très bien compris quand même que c'était pas la réalité, mais il y a une réelle curiosité, effectivement, surtout de la part des garçons. Hein. Je pense que les chiffres sont justes que vous avez annoncés, là, 62% les garçons et
37% les filles.
Voilà, je pense que ça correspond à ce que nous on vit, ce qu'on ressent dans les témoignages. Les garçons sont beaucoup plus curieux. Et c'est vrai que du coup, ils ont des demandes, décalées par rapport à leur âge, par rapport à leur vie amoureuse.
C'est-à-dire voilà, une demande décalée, ça veut dire quoi?
Là, je parle parce que j'ai une cinquantaine d'années. Je veux dire, par exemple, une fellation en 1970. Enfin, je ne sais pas si on faisait ça au tout début de notre vie amoureuse. Je ne crois pas.
D'accord.
Voilà, pour certains ados, pour pas mal d'ados, ça fait partie des préliminaires. C'est voilà.
Et est-ce que vous
déconstruire des choses.
Et est-ce que après, je vais vous laisser tranquille, Véronique. Je vous promets. Est-ce que vous avez vu, puisque vous le disiez, vous avez une cinquantaine d'années, donc ça doit faire en gros 25 ans que vous travaillez, grosso modo. Est-ce que vous avez vu les ados que vous voyez changer en fait, et est-ce que vous avez pu attribuer ce changement à l'accès plus simple aux films porno ou pas?
Moi, c'est mon sentiment personnel. C'est difficile de dire si j'ai raison ou pas, si c'est la vérité ou pas. Mais j'ai l'impression, j'ai l'intuition qu'effectivement, bon, ils ont un accès tellement facile à la pornographie que ça a changé un peu leur représentation. Et je sais pas comment expliquer ça. Moi, je pense qu'il y a un accès trop facile. Souvent, ils ont un accès à la pornographie avant même d'avoir eu des relations sexuelles. Donc c'est ça qui
Bien
est
sûr.
Un peu troublant.
Bah, voilà, c'est ça qui est... Il paraît que le premier accès arrive à 10 ans, donc j'espère que c'est avant.
Sur leur corps, par exemple, est-ce que tu connais bien ton corps? Comment ça fonctionne? Ton vagin, les grandes lèvres, enfin voilà. Ou pour les garçons, le pénis. Bah, parfois, ils savent pas répondre à des questions très simples. Ils connaissent pas le fonctionnement de leur corps et ils voient des films porno et voilà. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a un décalage et que ce qui me gêne parfois. Bon après voilà, nous on n'est pas là pour juger, hein, mais je trouve que ce décalage est un peu troublant.
Merci beaucoup Véronique. J'ai une question pour les deux garçons. Mathieu, moi j'aimerais bien savoir si au fond, parce que je comprends aussi que ce soit pas si facile d'en parler à certaines personnes, peut-être avec l'infirmière scolaire c'est plus facile. Est-ce que tu as l'impression que ça répond aux questions que tu te poses sur la sexualité en fait, quand tu regardes un film porno, même si tu imagines pas que ton premier rapport ce sera de manière violente ou je ne sais quoi, mais au moins les questions sur la manière dont ça marche en fait, comment ça marche. Est-ce que ça répond au moins à ce genre de questionnement, ou pas du tout, en fait?
Peut-être au tout début, certaines questions que je me posais, peut-être sur l'anatomie, juste, mais clairement, rien de plus. Enfin, c'est clairement de la fiction, quoi, donc on peut pas s'y fier.
Didier Valentin, là-dessus, je voudrais pas employer ce mot, parce que je veux pas qu'il soit mal interprété, j'allais dire, est-ce que parfois ça peut aider aussi les gamins de regarder un film porno pour voir effectivement, pour être plus tranquille avec la manière tout simplement dont ça fonctionne, ou pas du tout?
Oui, il y a des études qui montrent qu'il y a effectivement, dans l'expérimentation, il y a aussi un acquis, hein, qui peut effectivement, le questionnement c'est ce que j'ai acquis, comment après je le propose, ou j'en parle à ma partenaire, comment je le digère. Il y a l'âge bien évidemment qui joue, hein, très clairement. Mm-hmm. Bon, là on est sur du lycée, cette expérimentation elle fait partie, on peut pas enlever cette notion effectivement aussi de partie plaisir. Il n'y a pas que des expériences traumatiques, mm-hmm, vis-à-vis du porno, très clairement. Après bien évidemment que ça a une influence sur les pratiques, donc nous on est à l'écoute un petit peu de ça, et je pense qu'en tant qu'adulte on doit aussi je pense bousculer un peu nos représentations. Le monde a sérieusement changé, l'outil numérique est arrivé, et ne serait-ce que les réseaux sociaux. Il y a très peu d'adultes qui sachent qu'ils s'échangent sur les réseaux sociaux. Mmh. Et ça, c'est peut-être aussi.
Ça veut dire qu'il faut aller plonger, éventuellement, même y compris que les parents aillent plonger dans ce qui est accessible, ce que potentiellement les enfants peuvent regarder.
Bah, du moins s'interroger déjà sur nos propres représentations, pour se dire qu'aujourd'hui les codes sont pas les mêmes. Donc soit on reste sur nos vieux codes et on est jugeant, et à ce moment-là ça marche pas. Soit on essaye de s'interroger un petit peu sur ces nouveaux codes, et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui joue, ce qui veut pas dire que, et essayer d'éviter effectivement ce regard moral. Alors ça c'est des grandes paroles, on l'a tous un peu, hein, mais moi quand je travaille j'essaie effectivement, j'ai ma vie perso et j'ai ma vie pro, et en pro très clairement l'infirmière l'a dit, hein, c'est des personnes ressources les infirmières dans les établissements scolaires, et on peut s'appuyer sur elles, et souvent on l'oublie, et surtout je pense que effectivement il faut continuer avec ces histoires de 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle. Elles sont hyper importantes, et il y a plein d'endroits où ça ne se fait pas.
Léa, sur l'infirmière scolaire par exemple, c'est des gens qui sont des vrais liens importants pour vous, on peut dire des choses plus facilement. Alors visiblement toi tu parles avec tes parents, mais il y a peut-être des choses qu'on dit plus facilement, y compris sur ces sujets, y compris sur la sexualité, sur le porno, sur tout ça. Ces gens-là sont de vrais référents pour vous au lycée ou pas?
Oui, surtout pour les questions par exemple, il y a des questions que on peut difficilement poser à nos parents, alors qu'une infirmière elle a l'expérience pour nous répondre. C'est plus facile de parler à une personne, on sait qui aura la réponse nos questions.
Et est-ce que la question que je me pose, on va écouter Donatien dans un instant, c'est, je reviens à ce que vous disiez, Didier Valentin, sur savoir ce que les ados peuvent avoir à disposition. Nous, on est la génération où c'était les cassettes VHS qui circulaient sous le manteau. Autant dire, c'était beaucoup plus compliqué, en fait. C'était même. Donc, est-ce qu'on a la capacité, quand on est parent, de réaliser ce que c'est que ce flot, en fait? Parce que ça peut être un flot continu. Enfin, je lisais un chiffre, il paraît que Pornhub, c'est 92 millions de vues. Twitter, c'était 100 millions. Donc, c'est dire comme on est dans une énormité, en fait. Est-ce qu'on est vraiment en capacité, nous, d'appréhender le flot qu'ils ont à leur disposition?
Moi, je pense qu'il faut aller voir. Tout simplement. Je pense qu'en tant qu'adulte, on peut aussi les regarder qu'est-ce que Pornhub, et puis du coup voir un petit peu si on veut déconstruire, ne serait-ce que moi je m'attache beaucoup à travailler sur les titres du porno, donc j'en cite pas des kilos, mais non, les titres sont hyper violents, quoi. On est beaucoup dans quelque chose de effectivement cette fille s'est fait déboîter, elle aime bien, enfin voilà, avec des mots guerriers, hein, qui sont violents. Donc du coup ça, par exemple, c'est un vrai travail qu'on peut faire avec les plateformes, dire à un moment donné ça suffit, il faut revoir un petit peu les titres, qui soient plus égalitaires, quoi.
Bonsoir Donatien.
Bonsoir.
Je vous ai fait beaucoup patienter, je m'excuse, allez-y. Voilà.
Moi je voulais parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai été exposé à 8 ans et demi à mes premières images pornographiques. Et en fait, je suis... Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien. Oui. 8 ans et demi, c'est tôt.
Je suis vraiment surpris en fait des chiffres parce que moi déjà à l'époque, c'était dans les années 90, à l'école quand j'avais 10 ans, on en parlait tous entre garçons déjà. On se faisait même tourner des VHS, je me souviens. Donc de toute façon, j'ai envie de dire avec Internet aujourd'hui, c'est impossible de contrôler, il faut même pas essayer de se dire on va restreindre l'accès puisque de toute façon les enfants aujourd'hui savent se servir d'un VPN pour contourner n'importe quelle restriction.
Et vous, par exemple, vous avez des enfants maintenant, Donatien, ou pas?
Non, d'accord. Pas encore d'enfants.
D'accord.
Mais voilà. En tout cas, je voulais parler de mon expérience personnelle. Et forcément, j'ai peut-être eu 10 ans d'images pornographiques avant ma première expérience sexuelle. Et forcément, j'ai dû tout réapprendre à partir de là parce que j'avais des mauvais clichés. Il y a forcément un apprentissage pendant 10 ans, c'est sûr et certain.
Et quand vous disiez que, alors effectivement, ça circulait le VHS et le reste, ça veut dire à partir de 8 ans, ça veut dire quelle fréquence en même temps? Est-ce que vraiment vous étiez, pardon de le dire comme ça, gavé de porno pendant ces périodes-là ou pas?
On n'était pas gavé, mais on savait tout ce que c'était.
Alors, on sait tous ce que c'était aussi. Et comment, je vous pose la même question qu'à notre premier auditeur dont j'ai oublié le prénom. Quand on commence sa sexualité, en fait, à quel moment on arrive à se détacher de ce qu'on a vu et qu'on comprend vraiment que ça n'a rien à voir, que la vraie sexualité n'a rien à voir? À quel moment on comprend ça et on a une vraie sexualité normale et épanouie?
Pour ma part, c'était assez vite. Je veux dire, en 2 ans, c'était terminé quand je suis tombé sur la bonne personne, sur voilà. Qui a su m'écouter, ou quand moi j'ai eu le temps de m'écouter aussi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Donatien. J'allais dire, Didier Valentin, 2 ans, c'est pas beaucoup, et en même temps c'est beaucoup pour les filles que ça concerne pendant ces 2 ans-là. J'ai envie de dire qu'il faut se soigner de ce qu'on a vu dans des films pornographiques, quand on est quelqu'un comme Donatien, comme notre premier auditeur tout à l'heure.
Du coup, je mélange un peu les
peu importe, est-ce qu'il faut se soigner là? Ils disent tous qu'ils ont eu accès très très tôt et qu'effectivement, ouais, ça a un peu bouleversé leur début de sexualité. Donc l'idée, c'est qu'après, ça s'est remis dans l'ordre. Donc est-ce qu'il faut se soigner, en fait?
Une expérience traumatique, oui, bien évidemment, qu'il faut se soigner, il faut trouver un espace pour pouvoir échanger et en parler. Alors c'est pas toujours le cas, hein. Des fois, ça peut mettre des années, effectivement, pour trouver cet espace et pour pouvoir en parler. Mais enfin, bon, moi, j'ai l'impression que beaucoup d'ados que je rencontre, et quand on a, alors c'est eux qui abordent le sujet, moi j'amène jamais le sujet, c'est eux qui vont l'amener, je laisse venir sur ce sujet-là, et franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gamins effectivement traumatisés par ce qu'ils ont pu voir ou regarder. Ça peut arriver, hein, on l'a parlé tout à l'heure, hein. Mais à ce moment-là, bien évidemment qu'il faut trouver un espace pour se soigner ou se sevrer quand on est dans l'addiction. Mmh. Mais c'est très peu qui sont dans l'addiction du porno, les ados. On peut en parler aussi avec les adultes, peut-être qu'il y en a un paquet qui sont dans l'addiction du porno, quoi.
Mais alors les adultes sont majeurs et donc du coup c'est peut-être moins grave, j'en sais rien d'ailleurs.
Bon, ça a un impact sur leur vie relationnelle, sur
probablement sur leur vie sexuelle et sociale aussi. Bonsoir Bruno.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Moi, j'ai rencontré une pédiatre qui m'a expliqué, mes enfants avaient 10 ans, qu'un jour, il faudrait que je leur parle de sexualité. Et puis un jour, on a trouvé une image sur l'imprimante avec une femme nue que mon fils avait imprimée. Et j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons. Et du coup, dans la voiture, je leur ai dit, ce que tu as vu sur Internet, c'est pas ça la vie, quoi. Ce que t'as vu, les filles, machin, ça se passe pas comme ça, quoi. Et moi, ça m'a soulagé, et eux, je pense qu'ils ont bien compris, quoi. Ils ont bien compris que la fille, c'était pas un objet, quoi.
Et est-ce que vous savez s'ils continuent quand même, vos enfants, à regarder ce genre de films, ou etc.?
Je sais pas, maintenant ils ont 29 ans, 26 ans.
Ah bah oui, donc on espère pour eux qu'ils sont plus passés à la vraie vie.
Je pense.
Est-ce que vous vous souvenez de cette conversation, Bruno? Est-ce que vous vous souvenez de... En gros, est-ce que c'était fluide? C'est ça que j'ai envie de vous demander.
Non,
est-ce que,
non, parce que... Je sais plus si j'ai dit, c'était dans la voiture. Ouais. À un moment, on est enfermé là, c'est un moment propice. Et ils étaient tout rouges.
Et vous les observez avec le rétroviseur,
fait, ouais.
C'est mal.
Ouais, vite fait, ouais. Mais je pense que moi, ça m'a rassuré et je pense que ça leur a fait du bien, quoi.
Merci pour ce témoignage, Bruno. Mathieu, est-ce que ça te fait envie, cette discussion dans la voiture, dans l'habitacle?
Bah, clairement, ça fait vraiment pas rêver, oui. Mais par contre, j'aimerais bien rebondir sur quelque chose qu'a dit le docteur tout à l'heure.
Ouais.
C'est qu'il faudrait que les parents se plongent un peu dedans. Parce que, enfin, il y a une grosse différence entre ce qu'ils pensent qu'il y a sur ces sites et ce qu'il y a réellement. Ça serait intéressant qu'ils réussissent à déconstruire un peu le mythe auprès de leurs enfants si jamais un jour la discussion arrête d'être tabou. Parce que clairement, des fois, il y a des choses, comme je disais, qui sont vraiment choquantes. Et afin de déconstruire du coup les mythes, par exemple sur les titres ou les miniatures qui sont vraiment horribles, enfin, parfois.
Sauf qu'on peut difficilement faire le tri en fait. Si on peut faire le tri, Mathieu, dans ce qu'on reçoit. Toi, quand tu regardes, par exemple, tu sais te dire non, ça m'a l'air trop trash, ou ça moins, ou c'est plutôt la curiosité qui parle. Ça marche comment?
C'est pas vraiment. Enfin, je pense qu'il y a des tendances vraiment qui sont parfois assez hardcore. Par exemple, je me remarque, plus le temps passe, plus il y a de vidéos entre beau-frère et belle-sœur, et limite des fois maintenant il y a même plus le beau devant, quoi. Enfin, c'est vraiment horrible. Et je pense qu'il faudrait, du coup, que les parents parlent de ça avec leurs ados pour leur dire que, non, c'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Enfin, faut vraiment déconstruire le mythe, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui se sont déjà posé des questions, du coup, suite à ça.
Et ça, effectivement, ça. Enfin, tu savais ça, Léa, ou pas? Tu découvres des choses au téléphone sonne ce soir, grâce à Mathieu. Bonsoir, Alizée.
Bonsoir.
Bienvenue, Alizée.
Merci. Je voulais juste témoigner rapidement pour dire que j'ai regardé 2-3 films porno vers l'âge de 13 ans, pas du tout par plaisir, mais en fait plus par intérêt pour savoir un peu comment on était fait, enfin surtout comment étaient faits les autres gens. Et avant de sauter dans le grand bain et d'avoir des premiers rapports, voir un peu à quoi je pouvais m'attendre. Voilà, c'est ça. C'est tout.
Et est-ce que ça t'a appris des choses, du coup? Est-ce que ça a été une leçon, ma foi, une espèce de tuto, pardon de le dire comme ça, ou pas du tout? Est-ce que
un
ça t'a servi?
Un tout petit peu. Au moins, voilà, concernant l'anatomie. Après, concernant la nature des rapports, j'ai plus appris dans la vraie vie et c'était bien mieux. mais au moins concernant l'anatomie, j'ai trouvé que c'était intéressant et ça a été ma seule source d'information à ce moment-là.
Mais l'anatomie, c'est-à-dire, en gros, c'est celle du gars en face, ou est-ce que
c'est
comparer la sienne, en fait, c'est quoi?
Donc plus celle des garçons.
Ouais.
Et après, tant qu'à y être, voir aussi comment les filles étaient.
Et merci pour ces témoignages, Alizée. Ça m'intéresse votre avis là-dessus, Didier Valentin, docteur Capote. Le côté tuto, pardon, dont nous parle Alizée. Alors, elle n'en a pas abusé derrière, mais visiblement, c'était important pour elle.
Ouais, visiblement, elle nous a raconté une expérience plutôt positive. Finalement, elle a pris ce qu'elle voulait prendre. Et puis aujourd'hui, elle vit sa vie sexuelle, des inquiétudes ou des choses qu'elle sait aujourd'hui sur l'anatomie. Bon, après, c'est vrai que l'anatomie, par exemple, c'est le bon exemple, parce que effectivement, on en parle très peu. Les bouquins scolaires viennent de découvrir depuis 2-3 ans, grâce à Odile Filot, la vraie taille du clitoris, par exemple. Donc, c'est quand même, en 2019, c'est quand
sa
même
taille,
énorme.
Sa taille, sa forme.
Sa forme. On parlait toujours de la masturbation masculine, très peu la masturbation féminine, quasi pas, d'ailleurs. Beaucoup de filles connaissent pas, effectivement, leur sexe, ne le regardent pas, n'osent pas le regarder. Quand on parle de miroir, par exemple, elles sont des fois très surprises, ou elles me regardent, si moi je le fais, en mode genre, mais qu'est-ce qu'il nous veut, le type, là, pourquoi il nous parle de ça? Donc il y a quand même énormément de tabous sur...
Un vieux truc que les filles faisaient dans les années 70, les premières féministes faisaient dans les années 70, le fameux miroir. Des ados, c'est un mail sur franceinter.fr, pardon, des ados forcent certains camarades, pardon, à regarder des films porno. Ils n'osent pas refuser. Après, ils sont traumatisés. Il s'agit d'une forme d'agression sexuelle. C'est l'expérience de Léa que tu as vécu toi moins comme un traumatisme à ce point-là. Cela dit, tu as autour de toi des jeunes filles qui ont été réellement traumatisées par une expérience similaire ou pas?
Pas que je sache, parce que nous, entre filles, on n'en parle pas de ça. On peut parler peut-être de rapports sexuels, mais vraiment de pornographie, pas du tout.
Voilà, les filles parlent d'amour, c'est bien connu, et les garçons parlent de sexualité. Je plaisante, bien sûr. C'est Guillaume, notre dernier intervenant. Bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Guillaume.
Pour vous partager 15 ans de rencontres avec des jeunes extraordinaires, des adolescents, des gens de 3e, 3e, et puis au-delà. avec mon épouse pour parler justement de ces questions, pour être un peu le lien entre ce que les parents n'osent pas toujours dire ou voilà, c'est parfois compliqué. Donc on va à la rencontre de ces jeunes dans les classes. Et on découvre, au-delà du matraquage pornographique, parce que c'est bien de ça dont ils vont parler, et puis les témoignages précédents l'ont montré, c'est brutal, et c'est et je pense qu'il y a vraiment une démarche de salut public, j'allais dire, à mener, mais là, c'est pas de mon ressort, c'est l'État, et je pense qu'il y a des règles à poser, à mon avis, et puis que les féministes pourraient s'en emparer aussi, parce qu'il y a une image de la femme qui est vraiment honteuse dans tout ça, mais passons.
Certaines féministes le font, regardez, on parlait d'Ovidie à l'instant, pour le coup, là, c'est très bien, non seulement en parler, mais faire de la prévention aussi, y compris auprès des jeunes gens qui ont l'âge de Michael ou de Mathieu ou Léa, pardon.
Et je pense qu'on a aussi le devoir, nous adultes, entre guillemets, de préserver le regard encore assez pur des enfants autant que possible, et je pense que c'est possible, mais qu'on se donne peut-être pas toujours les moyens. Mais j'ai surtout un message très positif à
donner. Allez-y, rapidement, Guillaume.
Qui concerne tous ces jeunes qu'on rencontre depuis plus de 17 ans, bénévolement, je tiens à le dire, avec le concours de l'UDAF, pour parler avec eux de ces questionnements. Et au-delà des questions techniques, physiques, pratiques, de ce qu'est la sexualité, il y a un véritable appel à un amour durable. Et c'est ça qu'il faut essayer de, je pense, de susciter, de retrouver chez tous ces jeunes. On cherche l'âme sœur. On a envie d'un amour durable qui est rassurant, qui est réconfortant. Et ça existe toujours. Donc c'est ça qu'il faut essayer de transmettre plutôt que des techniques qui seront faciles à trouver plus tard. Et
exactement.
Dans la
complicité
du couple.
Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, tout ça normalement est très naturel et fluide. Léa et Mathieu, bien sûr, vous cherchez l'amour au bout du compte. Qui d'autre? Allez, merci vraiment, merci beaucoup, merci à tous. Je vous rappelle et je vous renvoie à la soirée spéciale à suivre sur France 2 avec une fiction d'abord, avec un documentaire et un débat aussi qui suivra. On est heureux d'être en partenariat avec eux ce soir. Merci beaucoup, merci à tous, merci à vos nombreux appels et portez-vous bien.